Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. On va aller dès le début d'Europe Midi dans l'Aisne, après ce drame cette nuit, dans une maison où 7 enfants et leur mère sont décédés dans un incendie. Le sèche-linge aurait pris feu. Clotilde Dumay sur place pour Europe 1. Et puis on sera en direct avec un pompier à midi 20. Alexandra Géji sur le terrible séisme qui a frappé la frontière turco-syrienne. Plus de 1300 morts au dernier bilan. La France a proposé son aide à la Turquie. Des dizaines de bâtiments se sont effondrés dans la nuit. On ira en Corse rendre hommage au préfet Erignac, assassiné il y a 25 ans par Ivan Colonna à Ajaccio. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est sur place et on rejoindra Frédéric Michel pour Europe 1. Le panier Europe 1, vous le savez, tous les premiers lundis du mois, on fait le point. La facture a-t-elle augmenté? A-t-elle baissé? De combien? Noah Moussa avec nous. La réforme des retraites arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale avant une nouvelle journée de grève et de manifestation demain. Sylvain Maillard, le monsieur retraite du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, vient dans ce studio, dans le studio d'Europe Midi, pour répondre à vos questions. Vous appelez d'ores et déjà le 39-21 et vous passez à l'antenne. Le gouvernement veut bloquer l'accès des mineurs aux sites pornographiques. On verra comment il compte s'y prendre. Et puis on sera avec un spécialiste du numérique et des familles à 12h45. La tendance météo, Anissa Haddadi, c'est le retour du soleil, hein ?
Oui, c'est vrai qu'on vous en parle depuis la semaine dernière de cette belle amélioration dans le ciel. Elle est là, elle se confirme cet après-midi. Les nuages de ce matin sont en train de se dissiper. La journée sera assez lumineuse. Petit bémol sur le massif central où il neige encore cet après-midi. Et avec ces nuages qui s'en vont, les températures, elles, sont en baisse. Il va donc falloir mettre les lunettes de soleil, mais aussi se couvrir.
On va suivre vos conseils. Merci Anissa. Et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
C'est un drame familial absolument effroyable qui s'est joué la nuit dernière à Charly-sur-Marne, dans l'Aisne. Un incendie s'est déclaré dans la maison où dormaient 5 enfants âgés de 2 à 14 ans, ainsi que leur mère. Tous sont décédés. Un autre homme, le père de cette famille recomposée, lui, grièvement blessé. Clotilde Dumay, vous êtes en direct depuis la petite ville où ce drame a eu lieu. Sur place, c'est la stupéfaction qui domine, hein.
Et oui, Romain, tout le monde a les yeux rouges ce matin au café de cette petite ville d'environ 2500 habitants. L'émotion est vraiment très forte. Muriel habite à quelques rues de la maison qui a brûlé.
On est vraiment du village et tout le monde se connaît. De toute façon, tout le monde se connaît dans le village. Non, ça va être un gros traumatisme. Moi, j'ai appris 7 enfants. Non, mais c'est horrible. Et puis s'il faut une solidarité ensemble pour aider cette famille, bien sûr, il faut qu'on soit présent.
Alors ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est a priori un sèche-linge qui aurait pris feu au rez-de-chaussée. Le père aurait demandé à sa famille de s'abriter au deuxième étage dans un comble aménagé, mais cela aurait finalement rendu l'intervention des pompiers plus difficile. La mère et les 7 enfants, 5 filles, 2 garçons, seraient donc morts asphyxiés. Le père de cette famille recomposée est lui gravement brûlé. Il a été transféré à l'hôpital, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Une famille voisine a, elle, dû être relogée à cause des dégâts de l'incendie. La rue, d'ailleurs, qui se trouve devant moi est pour l'instant bloqué. Une cellule d'aide médico-psychologique a été mise en place.
Merci beaucoup Clotilde Dumay. Le bilan est effroyable. 8 morts, 7 enfants et la mère. On sera dans un instant avec un pompier. Un pompier, déjà on va revenir sur ce qui s'est passé et puis on verra comment se comporter en cas d'incendie. On sera avec le commandant Aurélien Sabourdi. Il sera avec nous. Un autre incendie au cœur de l'actualité, celui de la rue Erlanger à Paris. C'était le 5 février 2019. Celui-ci est probablement d'origine criminelle. Une femme de 44 ans est jugée à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Elle est accusée d'avoir volontairement allumé le feu devant la porte de l'un de ses voisins après une dispute, le voisin pompier d'ailleurs. Les flammes s'étaient ensuite propagées dans tout l'immeuble faisant 10 morts. Les recherches se poursuivent actuellement pour retrouver d'éventuels survivants après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie ainsi que la Syrie. La solidarité internationale s'organise. Sur Twitter, Emmanuel Macron s'est dit prêt à apporter une aide d'urgence aux populations. L'Union européenne annonce l'envoi d'équipes de secours dans les zones sinistrées. Bonjour Alexandra Géji.
Bonjour.
Sur place, le bilan humain ne cesse d'évoluer. Où en est-on à l'heure où l'on se parle ?
Eh bien, pour l'instant, on parle de plus de 1 400 morts et au moins 6 400 blessés en Turquie et en Syrie. La Syrie qui se situe à seulement 60 km à vol d'oiseau du tremblement de terre. Il était 4h17 quand ce séisme de magnitude 7,8 frappe Pazarzik dans le sud-est de la Turquie. Au moins 2818 immeubles se sont effondrés. Et les images qui nous parviennent montrent de lourds dégâts, des villes entières en ruines, des hôpitaux détruits, des cris, des pleurs, des effondrements. Écoutez. Depuis, les secouristes tentent d'extraire les victimes des décombres. Des centaines de familles seraient encore coincées, comme les proches de cet homme en détresse.
Il y a ma sœur et ses 3 enfants sous les décombres. Son mari, son beau-père et sa belle-mère y sont aussi. En ce moment, il y a 7 membres de notre famille sous les décombres.
Ce séisme est le plus important de la région depuis le tremblement de terre du 17 août 1999. Il avait causé la mort de 17 000 personnes en Turquie.
Merci beaucoup Alexandra. Et cette information qui tombe à l'instant, un nouveau séisme de magnitude 7,5 celui-ci, 7,8 cette nuit, 7,5 il y a quelques instants, a frappé le sud-est de la Turquie. Quelques heures donc après le tremblement de terre qui a tué plus de 1 000 personnes dont on vous parlait à l'instant. L'actualité en France, c'est le début des hostilités à l'Assemblée nationale. L'examen en séance de la réforme des retraites débute aujourd'hui. Plus de 20 000 amendements ont été déposés, 18 000 rien que par les députés de la NUPES. Bonjour Alexandre Chauveau.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
En direct de l'Assemblée nationale, l'Alliance de gauche décide de jouer l'obstruction, hein.
Oui, l'objectif, c'est d'être en première ligne de l'opposition face au gouvernement. Peu importe les accusations d'obstruction, la NUP explique que c'est l'exécutif qui a choisi de ne pas laisser le temps au débat en ayant recours au 47.1, article qui limite, vous le savez, la durée d'examen dans l'hémicycle à 20 jours. Explication qui ne convainc évidemment pas le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il était invité de Sonia Mabrouk ce matin.
20 000 amendements, c'est faire croire qu'on veut le débat et opposer la violence de l'obstruction. Parce que 20 000 amendements, ça ne permet pas un débat.
Violence de l'obstruction, c'est violent
L'obstruction, c'est violent parce que ça prive de débat. Ça empêche de parler du fond. Et c'est fait pour ça. Et pourquoi est-ce que la NUPES ne veut pas parler du fond? Parce qu'il n'y en a pas un qui pense la même chose. Donc l'obstruction, c'est pour cacher leur division.
L'autre enjeu des débats, ce sera d'observer la position des Républicains. Hier, dans le journal du dimanche, Elisabeth Borne a accepté d'étendre le dispositif carrière longue aux travailleurs ayant commencé leur carrière à 20 ans. Demande qui émanait de la droite, mais qui ne satisfait toujours pas les députés LR récalcitrants, au premier rang desquels Aurélien Pradié, qui dénonce une tromperie. Une position qui embarrasse, pour ne pas dire plus, tant Éric Ciotti qu'Olivier Marleix, mal à l'aise avec l'idée de ne pas voter une réforme qu'il juge imparfaite, mais avant tout nécessaire.
Merci beaucoup Alexandre Chauveau, service politique d'Europe 1, bien sûr, en direct de l'Assemblée nationale. 3e journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. Trafic fortement perturbé dans les transports, avec un TGV sur 2 en moyenne, un TER sur 3 en région parisienne. Seules les lignes 1 et 14 du métro, totalement automatiques, circuleront normalement. Et puis il y aura des manifestations partout en France, selon les informations d'Europe 1. Les renseignements territoriaux attendent entre 900 000 et 1 100 000 manifestants. Donc, mobilisation légèrement en dessous des dernières journées de manifestation, mais toujours massive, bien sûr, cette mobilisation. Il y a 25 ans, jour pour jour, le préfet Claude Erignac était assassiné par Ivan Colonna à Ajaccio. Un tournant dans les relations historiquement tendues entre la Corse et le continent. Un hommage a eu lieu à Ajaccio ce matin. Le tout dans un contexte particulier, quelques jours seulement après le placement en semi-liberté de Pierre Alessandri, l'un des membres du commando Erignac. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est présent sur l'île. Frédéric Michel, vous êtes en direct avec nous depuis Ajaccio. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
La cérémonie s'est terminée il y a quelques minutes.
Oui, aux côtés de Gilles Simeoni, le président de l'exécutif corse, Gérald Darmanin, a présidé cette cérémonie, répétant à plusieurs reprises le mot « paix », débutant son discours en parlant de l'homme qu'était Claude Erignac, un grand serviteur de l'État qui aimait la Corse, ses hommes, ses paysages. 25 ans après, c'est lui qui nous réunit au service de la paix, ce qui nous oblige, et le ministre de l'Intérieur d'insister en s'adressant aux élus. Il nous appartient d'écrire une nouvelle page.
25 ans après la mort du préfet Erignac, il est temps d'inaugurer ensemble le début de la suite. Oui, il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse, d'inscrire dans le marbre de la paix, dans l'avenir, que chacun se sente infiniment respecté. Le gouvernement de la République y est prêt, il vous attend. Fidèle au sacrifice du préfet Erignac, une nouvelle fois, Il tend la main aux innombrables Corses de bonne volonté, épris de paix et de fraternité. Il vous propose de tracer ensemble la route institutionnelle, économique, culturelle, qui permettra à la Corse d'embrasser le siècle qui vient avec l'amour et le soutien de la République.
Ces paroles apaisées du ministre de l'Intérieur étaient attendues ici et ont trouvé, semble-t-il, un écho favorable. Gérald Darmanin va maintenant déjeuner avec une trentaine de maires de Lille, île qu'il a qualifiée de plus belle île du monde.
Merci beaucoup Frédéric Michel. Et on écoute, on entend la Marseillaise derrière vous d'ailleurs. Hein.
Oui, exactement, la Marseillaise qui a été jouée à la fin de la cérémonie hommage à Claude Erignac.
Merci beaucoup Frédéric Michel à Ajaccio pour Europe 1. La famille Erignac est reçue par Emmanuel Macron à l'Élysée aujourd'hui. C'est votre nouveau rendez-vous. Tous les mois, on vous présente le panier Europe 1 en partenariat avec le panéliste IRI. Une sélection de 12 produits alimentaires pour évaluer les répercussions concrètes de l'inflation sur les prix en rayon. Bonjour Noam Moussa.
Bonjour Romain.
Le mois dernier, le panier Europe 1 avait augmenté de 10 euros sur un an. Il s'agissait des chiffres du mois de décembre. Aujourd'hui, vous nous révélez la hausse constatée pour le mois de janvier.
Oui, le panier Europe 1 a bel et bien augmenté. Notre ticket de caisse est passé de 44 à 56 euros entre janvier 2022 et janvier 2023, 12 euros de plus, soit une hausse de 26%, une augmentation qui dépasse les 12% d'inflation alimentaire qu'avait calculé l'INSEE. Et ça, c'est parce que notre panier recense des produits particulièrement inflationnistes.
Alors Noah, quel produit augmente le plus ?
Sans surprise, c'est le paquet de 10 steaks hachés surgelés de marque distributeur qui a le plus augmenté, plus 41,2% en un an. Il est passé de 8 euros à 11,50 euros selon les relevés d'IRI, le partenaire d'Europe 1. Autre hausse notable, le paquet de capsules de lessive grand format de marque nationale. Sur un mois seulement, entre décembre 2022 et janvier 2023, il a augmenté de 39 centimes. Mais à l'inverse, toujours sur un mois, on constate quelques baisses légères, dont celle de 14 centimes du pack de 6 litres de lait demi-écrémé de marque nationale, ou celle de 14 centimes également de la bouteille de 250 ml de shampoing, elle aussi de marque nationale.
Merci beaucoup Noah. Le panier est passé de 44 euros à 56 euros entre janvier 2022 et janvier 2023.
Oui, exactement. Oui.
De 44 euros à 56 euros, c'est impressionnant. Merci beaucoup Noam Moussa, service économie d'Europe 1. Tous les détails sur ce panier d'ailleurs sont à retrouver sur europe1.fr. Évidemment, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des sites pornographiques. Le gouvernement veut bloquer de fait, c'est interdit aujourd'hui évidemment, mais veut bloquer de fait l'accès à ces sites pornographiques pour les enfants, pour les mineurs. Comment compte-t-il s'y prendre ? On va voir ça dans un instant. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
C'est la fin de l'accès aux sites pornographiques pour nos enfants. Voilà ce que dit le ministre délégué chargé du numérique Jean-Noël Barrot dans le journal Le Parisien ce matin. Il promet que la France va imposer un dispositif de certification de l'âge pour empêcher l'accès des mineurs au contenu pornographique en ligne. Bonjour Louise Salé.
Bonjour.
Alors, concrètement, à quoi pourrait ressembler cet outil ? Comment ça pourrait fonctionner ?
Alors, l'ambition du gouvernement, c'est que l'interdiction d'accès aux mineurs soit strictement respectée. Aujourd'hui, il suffit d'un clic pour qu'un utilisateur certifie qu'il est majeur. Et ça va fonctionner, en fait, comme lorsque vous achetez, Romain, un objet sur Internet. Le site d'achat demande à votre banque de certifier que vous êtes en mesure de payer cet objet sans accéder à vos données bancaires. Eh bien là, ce sera pareil. Chaque site pornographique demandera, via une plateforme intermédiaire et indépendante, d'authentifier l'âge de la personne qui se connectera. Et ça permettra d'éviter que les sites ne s'emparent des données personnelles concernant l'identité des utilisateurs. Alors pour savoir si ce sera vraiment efficace, il faut bien surveiller la mise en place de ce nouveau système, pardon, ouais. Explique Axelle Dessin. Elle est directrice du Programme national de sensibilisation Internet sans crainte.
On attend de voir ce que ça va vouloir dire techniquement, si ça va pouvoir être mis en œuvre. Et puis, il faut surtout que ça puisse être mis en œuvre, en fait, par toutes les plateformes. Sinon, ça n'a pas de sens. Et dans tous les cas, ça n'empêche pas l'éducation à la sexualité, à l'intimité, des plus jeunes.
Et l'entrée en vigueur du dispositif est prévue pour septembre 2023.
Voilà, pour les adultes qui veulent se connecter, il faudra une carte de crédit.
Faudra un document d'identité.
Ah oui, un document d'identité.
Qui sera certifié via une plateforme intermédiaire.
Mmh.
Comme ça, le site pornographique n'a pas accès à l'identité des données personnelles.
Voilà, et puis les enfants, les jeunes, enfin les mineurs ne pourront pas se connecter.
Tout à fait.
On sera avec Thomas Romer, qui est directeur et fondateur de l'Open, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique à 12h45. Ça fait parler forcément dans les familles. On sera avec Thomas Romer donc à 12h45. Merci beaucoup Louise. Un nouveau départ pour l'alliance Renault-Nissan. Le géant franco-japonais de l'automobile n'avançait plus beaucoup depuis la chute de l'ex-PDG Carlos Ghosn en 2018. Alors après de longues négociations, les deux entreprises ont conclu un accord de rééquilibrage de leurs relations. Les détails ont été dévoilés lors d'une conférence de presse à Londres et vous y étiez pour Europe 1, Aurélien Fleureau. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Concrètement, ça devrait être la fin des tensions entre les deux constructeurs, hein ?
Oui, effectivement, puisque la baisse de la participation de Renault dans Nissan de 43 à 15% doit permettre de fluidifier les relations entre ces deux constructeurs. Plus de fusion à l'horizon, plus d'inquiétude côté japonais d'éventuelles ingérences de l'État français, actionnaire évidemment de Renault. Un an de négociations et même plus pour Jean-Dominique Senard, patron de l'Alliance, arrivé juste après l'arrestation de Carlos Ghosn.
Depuis le départ, je sais que Nissan ayant 15% de Renault sans droit de vote, c'est franchement frustrant. Et de l'autre côté, tout le monde a un peu oublié que Renault avait 44% d'une entreprise sans avoir le moindre droit de dire quoi que ce soit. C'était baroque, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était peut-être à une autre époque. C'est fini, on est en train de passer à une autre étape. Vous imaginez à quel point mon soulagement est grand, parce que ça fait 4 ans que j'ai en tête l'idée qu'on arrive enfin à cette étape. Voilà, on a pris son temps, c'est vrai, mais on y est.
Des projets industriels communs vont être renforcés en Inde, en Amérique du Sud et en Europe, avec la participation du troisième allié, Mitsubishi. Côté français, ce nouveau cadre de l'alliance, valable pendant 15 ans, garantit par exemple eh bien, que la voiture électrique qui va succéder à la Nissan Micra sera bien produite en France, à Douai, sur la même plateforme que la future R5.
Aurélien Fleureau, en direct de Londres. Merci beaucoup Aurélien, il est midi 18 justement. La bourse, avec vous Didier Hameau de boursier.com. Bonjour Didier.
Bonjour Romain.
Quelle est la tendance à Paris ?
Ça baisse pas mal cette fois, moins 1,5%, 7120 points sur le CAC 40, un début de semaine prudent après un début d'année sur les chapeaux de roue, hein, plus 10% sur le CAC 40 quand même depuis le 1er janvier. Le CAC qui marque une pause sur fond de regain de tension géopolitique entre les États-Unis et la Chine, ça ne plaît pas beaucoup aux marchés financiers. La baisse concerne les valeurs qui ont le plus progressé ces dernières semaines, dans le luxe par exemple, Kering, repère 3,5%, LVMH, moins 2,5%. L'automobile aussi, on en parlait à l'instant, Forestia, moins 3%, Valeo, moins 2%, Stellantis, moins 1% avec Renault aussi à 38,70 €. C'est la même chose en Europe. Francfort cède 1,3%, Bruxelles, moins 1,2%, Madrid, moins 1%, le CAC 40 en baisse d'un 1,5%, 7120 points.
Didier Hameau de boursier.com, merci Didier. Et à demain, la météo à présent avec Anissa Haddadi, avec une journée, même une semaine beaucoup plus lumineuse.
Oui, nous sommes partis pour une belle semaine d'hiver avec un temps sec, lumineux, ensoleillé et des températures fraîches. Cet après-midi, nous aurons seulement 4 degrés à Saint-Étienne, 5 à Belfort, 7 à Reims et Châteauroux, 8 degrés pour Paris, Lille et La Roche-sur-Yon, 10 degrés à Brest et Quimper, 12 à Nice et 13 à Marseille et Ajaccio. Alors Ajaccio, le 13 degrés, vous allez peut-être le ressentir un peu moins parce que nous avons du vent de nord-est qui souffle sur la Corse depuis ce matin jusqu'à 90 km/h. Ailleurs, c'est une journée agréable, le soleil se montre en particulier entre la Bretagne et la région parisienne. Ailleurs, quelques passages nuageux et toujours des chutes de neige à 500 mètres sur le massif central.
Merci beaucoup Anissa. Il est midi 20. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va revenir sur ce dramatique incendie dans l'Aisne. 8 morts d'une même famille, parmi lesquels 7 enfants de 2 à 14 ans. On sera avec le commandant des pompiers, Aurélien Sabourdi. On va revenir déjà sur ce qui s'est passé. À tout de suite.